Voici un enregistrement réalisé au Vert Pop, un événement ouvert et important de l'écologie politique. Le vendredi 23 août 2024 à Namur, se tenait une conférence avec cette question: quel lien établir entre violence domestique et maltraitance animale? Avec Bénédicte de Villers, docteur en philosophie, directrice de la Bastide, accueil de jour pour les personnes en situation de handicap mental et porteuses de troubles psychiatriques associés. Elle intervient également à l'ULB en psychotraumatologie et à l'ULIège en médiation animale et relations à la nature. Anne-Claire Gagnon, vétérinaire, rédactrice comportementaliste et auteure de livres sur les relations entre les humains et les petits félidés domestiques, les chats. Elle préside aussi l'Association française de maltraitance animale et humaine. La conférence est animée par Dunia Tadli, administratrice d'Etopia, experte auprès de l'administration wallonne en charge du bien-être animal. Mais tout de suite, Bénédicte de Villers.
Je vais commencer un peu par la genèse, en fait, qu'est-ce qui m'a conduite à aborder cette question et finalement comment ça a évolué depuis. Et puis l'idée, c'est de voir effectivement comment les réalités belges et françaises peuvent être à la fois parallèles, mais sans doute aussi, et on aura l'occasion d'en parler, distinctes à certains points de vue. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'un des volets sur lequel je travaille et qui est fort important pour moi, c'est tout ce qui relève du secteur de ce qu'on appelle communément la médiation animale. Donc, c'est ce qui relève de la sphère du soin qui associe des animaux ou des dispositifs de nature. Et je vous ai précisément mis une des définitions actuelles de ce secteur qui est très à la mode, très en expansion, dont on parle quand même de plus en plus dans la presse, avec toutes les questions que ça soulève en fait au niveau de la pratique, de la formation, enfin de toute une série de choses de cet ordre-là. Mais en matière de définition, j'avais envie de vous indiquer la définition de Boris Albrecht, qui est donc un Français, qui est le directeur de la Fondation Zomer en France, qui est une fondation sous l'égide de la Fondation de France et qui finance un certain nombre d'initiatives en matière de médiation animale, qui soutient aussi un secteur de recherche en la matière, donc qui explique bien quand même que la médiation animale, certes, ça relève, on va dire, de la sphère du soin au bénéfice essentiellement des humains, mais en tout cas que ce sont des pratiques qui doivent se faire au minimum dans le respect des humains et des animaux impliqués, voire au bénéfice aussi. La question se pose de plus en plus, en fait, de savoir ce que les animaux eux-mêmes peuvent trouver, en fait, comme bénéfice dans ces activités. Et si je cite cette définition de Boris Albrecht, c'est précisément que en 2014, à la suite de deux recherches que j'avais déjà faites pour la Fondation, c'est lui qui m'a proposé de travailler sur cette thématique du lien entre la violence domestique et la maltraitance animale. Très honnêtement, à l'époque, c'était une thématique dont je n'avais pas encore entendu parler. Et sa demande était, ben voilà, c'est une thématique qui est extrêmement documentée en langue anglo-saxonne, dans les études anglaises et américaines. Il n'y a rien en français. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Bon, alors, il fallait un petit peu commencer. Et donc, c'est à cette occasion-là, en fait, que je suis vraiment rentrée dans le sujet pour découvrir une problématique complexe, compliquée, difficile, et des choses qui, depuis, m'ont fortement passionnée, mais aussi avec le constat que, voilà, j'ai rempli ma mission en 2014 et 2015, et grosso modo, cette étude était un petit peu restée... voilà, elle était faite, mais soit. Enfin, je n'ai pas du tout été sollicitée pour en reparler. Or, il se fait que depuis 2023, en fait, c'est la cinquième intervention orale qu'on me demande sur ce sujet ici en Belgique. Et donc, il est en train de se passer des choses, en fait, socialement. Je pense qu'il y a maintenant une écoute par rapport à cette thématique, 10 ans après. Mais donc, il y a probablement quelque chose de sociétal qui est en train de se passer, quelque chose des... Voilà, des dynamiques dont il convient de s'emparer pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec ce lien, avec cette question du lien entre la violence domestique et la maltraitance animale. Et donc, la mission, c'était, ben, qu'en est-il dans ces études anglo-saxonnes? Comment peut-on comprendre, finalement, cette documentation anglo-saxonne et ces relativement rares études en langue française? Et comment est-ce que c'est perçu sur le terrain belge et français? Et effectivement, en fait, sur le terrain, quelles étaient les réactions auxquelles j'avais le plus souvent affaire ? Des réactions, au fond, en 2014, de nouveau, extrêmement sceptiques. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça va changer, en fait, de s'intéresser au sort des animaux ? Qu'est-ce que ça va ajouter à notre travail social ? L'urgence humaine, elle est là. Enfin, un petit peu ce que Dounia a dit en introduction. C'est-à-dire, au premier abord, en fait, ça apparaissait comme une thématique qui éloignait de l'essentiel. Qui éloignait de l'essentiel, c'est-à-dire qui éloignait du sort essentiellement des femmes et des enfants, enfin, pour le dire rapidement. Et puis, bon, ben, comme voilà, les méthodes en anthropologie et en sociologie sont des méthodes où on peut prendre du temps et on peut discuter longtemps. Et donc, finalement, au terme de longs échanges, ben, le constat d'un certain nombre de protagonistes que j'avais eu la possibilité de rencontrer ben, tenait des propos tout à fait différents. En l'occurrence, eh bien, en fait, c'est en me penchant, en ayant peut-être un regard un peu attentif à la situation des animaux, que j'ai pu me rendre compte de certaines choses, et par exemple de la difficulté à répondre adéquatement à des besoins chez les enfants, des choses comme ça. Et de là, finalement, la formulation d'une hypothèse qui était celle selon laquelle, finalement, s'intéresser aux animaux, ça n'éloigne pas de l'essentiel, au contraire, ça permet peut-être d'avoir une vision plus complexe, et donc une vision enrichie en fait des situations sociales. Alors, ben, qui dit une étude exploratoire dit ben, on commence par faire une revue de la littérature, de cette littérature anglo-saxonne existante. Alors j'ai mis quelques références, mais c'est loin d'être exhaustif. Mais grosso modo, mon constat était qu'il y avait deux grandes tendances dans ces études. C'était d'une part, et c'était la tendance majoritaire, c'était envisager ce lien entre la violence domestique et la maltraitance animale en fonction finalement d'une idée de diachronie. Donc, ça correspond à l'idée selon laquelle, au fond, quand on voit des comportements violents dans la sphère interhumaine, c'est intéressant de se pencher sur le passé de ces auteurs, parce que bien souvent, en fait, on peut constater que dans l'enfance, il y a eu des actes de cruauté qui ont été commis sur les animaux. Alors, ce sont des choses qui sont effectivement reprises dans certaines échelles d'évaluation en psychiatrie. Ce sont des choses qui sont aussi reprises dans le manuel, le fameux DSM, donc manuel l'inventaire des diagnostics et des symptômes. Et donc, c'est relié à un certain nombre de choses, par exemple les troubles des conduites, etc. Donc, c'est vraiment une perspective diachronique qui est également reprise, par exemple, quand on se penche, alors non pas seulement sur le passé des adultes, mais aussi sur le passé de jeunes auteurs de fusillades dans les écoles. En fait, on remarque, hein, et c'est quand même un pourcentage assez important, que de nouveau, précédemment, il y avait des signes peut-être qu'il aurait fallu relever, mais on constate donc qu'il y a eu des actes de cruauté sur les animaux. Parmi ces actes de cruauté, c'est parfois intéressant de remarquer que donc quand les enfants ou les jeunes sortent du foyer pour commettre ces actes, en fait, ils sont plus à risque de violence ultérieurement. Maintenant, cette perspective, soyons clairs, c'est un peu une perspective qui consiste à se pencher sur un échantillonnage de personnes assez restreint, c'est-à-dire une population souvent qui est une population incarcérée. L'échantillon de personnes qui fait l'objet finalement de ces études est un échantillon particulier et donc la question se posait quand même de savoir mais qu'en est-il au niveau de la population peut-être plus générale. Et là en France et juste un tout petit peu avant en Suisse, un chercheur, un psychologue social donc qui est Laurent Beg-Chankland, il a étudié cette question-là, on y reviendra dans un instant, mais avant peut-être juste parler de l'histoire de cette idée de perspective diachronique hein, donc qui veut qu'il y ait une forme d'escalade entre les actes qui sont commis sur des animaux et puis sur des humains. En fait, c'est une idée qui vient d'assez loin. Et si on se penche notamment sur ce qu'on considère communément comme l'une des premières lois de protection animale, à savoir la loi Gramont en 1850, en fait, ce qui est intéressant quand même de relever là-dedans, mais c'est que les arguments qui sous-tendaient en fait cette loi, c'était pas nécessairement des arguments en faveur du bien-être des animaux. C'était pas une loi qui était au bénéfice strict des animaux eux-mêmes. Donc c'était une loi qui visait en fait à protéger ce qu'on considérait comme étant des classes sociales vulnérables à la violence, en l'occurrence les milieux évidemment un peu plus populaires. Et donc on considérait que le spectacle de la violence, par exemple, donc le fait de battre l'âne qui tirait la charrette de lait dans la rue, que le spectacle de la violence pouvait encourager des comportements de violence sur les animaux. Donc il y a un argument en fait qui est très classiste là-dedans. Il y a évidemment derrière ça l'idée au fond que si on veut protéger les animaux, en fait c'est plutôt pour les humains que pour les animaux eux-mêmes. Ça correspond aussi à une époque où on pense que c'est important de réduire la violence sur les animaux parce que, par exemple, pour la production de la viande, c'est mieux une viande que les animaux n'aient pas été maltraités parce que la viande serait meilleure si elle provenait d'animaux. Donc il y a un argument utilitariste, purement et simplement. Donc, tout ça pour dire que cette idée de diachronie, elle est assez ancienne, mais ce n'est pas la seule manière d'envisager le lien entre la violence domestique et la maltraitance animale. Et donc, effectivement, il y a aussi une manière plus synchronique, donc d'envisager la situation de façon peut-être plus, non pas longitudinale, mais vraiment alors en regardant une situation dans sa globalité. Et c'est une idée donc défendue par donc ce psychologue dont je vous parlais il y a un instant, donc Laurent Beck-Chanclan, qui lui préfère parler justement du syndrome déviant, donc qui montre en fait qu'on repère généralement alors un certain nombre de tendances déviantes générales. Et donc ça, il y a une première étude en Suisse qu'il cite dans un ouvrage que je vais vous renseigner dans un instant, qui était une des premières études à grande échelle, là où on s'intéressait. Donc c'est des études menées auprès d'enfants et d'adolescents. Vous voyez ici, on a un chiffre de plus de 3000 enfants et adolescents interrogés, et donc qui s'intéressent finalement à ces actes de violence commis sur les animaux. Donc ce sont des enquêtes où, avec des méthodes de psychologues, en fait, ils essayent évidemment de tester un minimum la sincérité de ce qui est dit. Et en fait, en assurant l'anonymisation et la protection de cet anonymat, en fait, les ados sont effectivement plutôt sincères. On constate que ces actes de violence sont majoritairement commis par des garçons, que souvent ils sont reliés à d'autres comportements, notamment du harcèlement scolaire, enfin d'autres comportements problématiques. Et puis on voit que les animaux comme les chats et les chiens sont les plus souvent maltraités. C'est corroboré en fait par l'étude de Laurent Beck-Chanclan, qu'il cite dans cet ouvrage assez récent, qui est vraiment très intéressant et très important pour moi, qui est donc face aux animaux. Lui, il a fait une étude, il a conduit cette étude auprès de plus de 12 000 élèves. Et donc, on repère finalement un mouvement, même si les chiffres sont un tout petit peu différents, on repère en tout cas un mouvement qui est assez analogue à celui qui est présenté du côté suisse, avec une majorité de garçons reliés aussi à d'autres phénomènes de violence. La question de savoir si ces actes sont perpétrés de manière solitaire ou en groupe, et donc avec une idée peut-être d'escalade, le fait que les chats et les chiens sont concernés majoritairement. Alors c'est ce qu'on appelle des enquêtes autoreportées, donc ça veut dire que l'accent est mis sur ce qui est dit, et en particulier ici, c'est ce que les personnes elles-mêmes peuvent en dire. Et lorsque j'ai fait cette étude en explorant un petit peu non seulement la littérature, mais en allant aussi à la rencontre des acteurs et actrices de terrain dont je parlerai dans un instant, l'idée pour moi, c'était aussi de se dire comment est-ce qu'on peut précisément sortir simplement de cette sphère du discours et au fond... Les acteurs sociaux qui sont sur le terrain, qui vont à la rencontre, en fait, leur outil de travail, certes, c'est le langage, mais pas que, en fait. Il y a aussi une question de perception, de repérer les signes, de savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut voir. Quand on pense parfois à ces situations de violence conjointe, c'est vrai qu'on peut avoir des images très massives. Je pense par exemple au syndrome de Noé, donc ces personnes qui de façon un peu compulsive veulent sauver énormément d'animaux, ce qui engendre et qui est parfois relié aussi à des problèmes psychiatriques, mais ce sont des choses très très spectaculaires. Mais au-delà de ces situations très spectaculaires, au fond, qu'en est-il quand c'est moins évident, quand c'est moins apparent, qu'au fond il y a beaucoup de silence qui entoure les violences dans les foyers, comment est-ce qu'on peut néanmoins finalement se tailler des outils pour repérer cela et inventorier cela. Et donc voilà, moi ma question c'était finalement comment est-ce qu'on peut du coup aller au-delà de ce qui est dit, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à ces signes beaucoup plus ténus et beaucoup plus subtils quelque part. Voilà, donc c'était un peu avec ça que je commençais cette étude. Avec l'idée que, donc, dans la maison, effectivement, on peut dire que plus souvent les femmes, hein, les femmes, les enfants et les animaux peuvent être concernés de façon égale par les phénomènes de violence. Alors, il y a évidemment tout un contexte socioculturel qui entoure cela, qui peut contribuer à comprendre cela, finalement, même dans nos manières de faire en tant que travailleurs sociaux, par exemple, cette tradition de pensée qui consiste à accorder plus d'importance aux humains qu'aux animaux, en disant finalement l'essentiel c'est de faire en sorte que cette femme sorte de là, ou que les enfants soient extraits de leur milieu, etc. Donc cette idée de préséance de l'humain sur l'animal a une longue histoire, hein, ça fait de quand même de toute notre tradition est baignée de cette idée que l'humain fait exception dans le règne des vivants, fait exception par sa raison, son langage, sa culture, sa liberté, enfin quel que soit finalement l'argument que cela dit, les éthologues démontent un à un, mais voilà, sans compter bien entendu l'enrôlement des animaux dans des logiques d'exploitation, de production. À cela s'ajoute aussi une vision des relations entre humains, une vision des relations, des positions et des rôles, qui est en fait aussi un des facteurs explicatifs de ces mécanismes d'inégalité des positions et donc d'origine de mécanismes de violence. Hein. Finalement, quand il y a des positions inégalitaires, ben, celui qui est en haut entend bien garder les privilèges et le pouvoir que cela lui procure. Donc le fait qu'il y ait des positions distinctes engendre de la rigidité, engendre des rapports de pouvoir, des rapports d'influence, des rapports d'emprise, et c'est source effectivement de violence. Ça a été expliqué de façon différente, mais je pense par exemple à Bourdieu, mais évidemment qu'il y a plein d'autres personnes qui se sont penchées sur ces questions, ce qui permet quand même de nuancer ce qu'on entend quand même très souvent quand il est question par exemple de féminicide ou de violence domestique. On relie fréquemment ces questions-là finalement à des choses comme des mécanismes très impulsifs, comme si ça relevait d'une affaire de perte de contrôle, de grande passion. Et là, on voit que finalement, c'est d'autres mécanismes qui sont en jeu, que ça a donc à voir avec des raisons sociales finalement de la violence. Et ça, donc, ça fait partie d'une violence somme toute ordinaire, non pas au sens où il faudrait justement ne pas s'en soucier, mais ordinaire, c'est-à-dire que ça peut fonctionner à bas bruit, sans grand signe spectaculaire, sauf quand ça va jusqu'à la mort, évidemment, mais donc ça veut dire qu'elle est regardée, cette violence banale, fréquente, ben, peut-être il faut un petit peu aiguiser notre regard par rapport à cela. Alors justement, ces études anglo-saxonnes, que disent-elles? Très schématiquement, mais donc voilà, il y a différentes, si vous le souhaitez, on peut, voilà, tout ça, il y a les sources évidemment par rapport à ça, mais moi c'était le constat que j'avais envie de mentionner ici, c'est qu'un partenaire brutal envers une femme peut évidemment s'en prendre aux animaux. Une femme dont le partenaire s'en prend aux animaux a 5 fois plus de chances d'être maltraitée. Que le fait de s'en prendre aux animaux, ben, ça instaure un climat de terreur. Et là où les enfants sont maltraités, il y a 60% de risque que les animaux le soient aussi. Les animaux sont sensibles à ce climat de violence, et ça peut être une des raisons qui peut parfois expliquer une réponse agressive de la part, on pense notamment aux chiens. Un animal donc maltraité peut donc être un indicateur de violence domestique. Le fait qu'il y a un risque de maltraitance animale, ça a un effet sur les personnes qui vivent dans le foyer, les femmes et les enfants. Ça enjoint au silence, ça fait que beaucoup de femmes retardent leur départ, sachant qu'il y a très peu de structures qui les accueilleraient, évidemment, avec leurs animaux. Alors, aux USA, il y a des choses qui sont plus développées, mais ça, ça fera partie des choses. On pourra peut-être discuter France-Belgique, voilà. Et les enfants qui ont assisté à des actes de cruauté envers les animaux peuvent le devenir aussi, puisque, voilà, à l'adolescent, ça peut être effectivement une des voies qui peut se développer. C'est une forme d'insensibilité qui se développe. Alors, sur le terrain, donc je vous ai mis sur ce slide un petit peu les profils des personnes que j'avais pu rencontrer issues du secteur associatif. Bon, j'ai essayé un petit peu d'aller à la rencontre de personnes à la fois qui travaillent avec des enfants, avec des femmes et avec des animaux, dans le cadre voilà, d'un secteur qui se structure depuis de nombreuses années. Alors, un petit rappel de la définition de la violence, et c'est vraiment, donc, il y a l'idée que quelque chose est intentionnel, que quelque chose est délibéré, que ça s'inscrit dans un rapport de puissance, hein, donc un exercice de la force physique ou de la puissance contre soi, contre une personne, un groupe de personnes, etc., et que ça a des effets. Donc, il y a un lien entre les humains et les animaux autour de cette violence, et sur le terrain, sans doute qu'aujourd'hui, après 10 ans, c'est un petit peu plus évident. Effectivement, du côté de ce qu'on appelle communément en victimologie le cycle de la violence domestique, en fait, on peut repérer que l'animal peut occuper une place particulière à chacune de ces 4 phases du cycle de la violence. Que ce soit au moment de la tension, c'est-à-dire dans un moment où finalement un partenaire cherche à exercer de la pression, du contrôle, cherche à maîtriser les comportements. En fait, ça s'exerce autant finalement sur généralement la partenaire que ça peut s'exercer également, et on peut en faire la démonstration sur les animaux. L'animal, au moment de l'explosion de la violence, peut être utilisé comme une arme, comme un moyen aussi de faire taire, d'enjoindre au silence, etc. Comme un moyen de chantage aussi, un moyen de minimisation. Oui, je m'en suis pris à l'animal, jamais je te toucherai, enfin, tous ces trucs-là. Et puis, dans la lune de miel, en fait, l'animal nouveau départ qu'on va chercher sur un coup de tête, cela peut intervenir également. Donc on voit bien à considérer ce cycle-là que bien sûr le problème c'est donc le silence. J'ai remis ici une rapide définition de la maltraitance infantile, juste pour noter en fait l'importance de la détection dans les milieux finalement où les enfants devraient être le plus protégés, donc les milieux familiaux, scolaires et de loisirs, où s'exerce pourtant de la violence, et donc la question de la prévention, et on y reviendra, se posera plus tard dans mon propos. Ça, c'est une slide qui me tient particulièrement à cœur et où je voudrais précisément établir le lien, finalement, avec la question de la maltraitance sur les animaux. C'est ce qui relève, finalement, de la violence éducative ordinaire, qu'elle soit commise, finalement, sur les enfants ou sur les animaux. Je me réfère ici à une enquête qui a été menée en 2020 et 2021 en Belgique, où, quand bien même, finalement, des parents estiment qu'une législation serait assez utile en la matière, on constate quand même que l'usage des punitions sur les enfants semble quand même aller fort de soi, avec quand même des privations, des actes comme des punitions, comme, qui semblent, en fait, être des moyens tout à fait légitime pour éduquer les enfants. Et ça, je pense que c'est intéressant en fait de mettre ça en lien avec la question de la violence éducative ordinaire commise sur les animaux et les moyens éducatifs qui sont parfois justement vantés en matière d'éducation des animaux, alors des animaux le plus souvent domestiques, mais pas que. Où on voit quand même que la dimension de genre, par ailleurs, intervient de nouveau. Alors, concernant la maltraitance animale, peut-être juste noter que quand, dans les années 50, ce pédiatre, donc le docteur Silverman, s'est intéressé au syndrome des enfants battus, ben, il avait finalement répertorié des planches un peu anatomiques où il entendait finalement donner la possibilité au pédiatre de repérer ce qu'il appelle des blessures intentionnelles, donc non accidentelles, ce qu'on appelle les BNA. Donc les blessures qui devaient éveiller quelque chose, comme n'étant pas normal, c'est pas la chute dans l'escalier, c'est pas la chute au foot, donc que s'est-il passé? Et finalement, en fait, c'est quelque chose qui a été repris dès lors qu'il s'est agi de d'essayer de se pencher sur la maltraitance des animaux également. On s'est également intéressé à ces blessures non accidentelles chez les animaux et à leur répertoire. L'idée étant, et je crois qu'en fait c'est toujours ça qu'on doit travailler, d'essayer de trouver un langage commun en fait entre les professionnels de la santé humaine et les vétérinaires, et de voir comment il est possible finalement de croiser les observations, de croiser les signalements, et donc de croiser en fait nos sources d'observation. Concernant la violence éducative sur les animaux, donc effectivement, il y a différentes formes de violence sur les animaux, que ce soit parce qu'on méconnaît les besoins indispensables des animaux, qu'on nie leurs émotions, qu'on nie leurs besoins de vie sociale, ou que ce soit finalement toutes les représentations qui sont encore largement véhiculées, comme quoi un chiot, pour lui faire comprendre qu'il a mal fait, on va le prendre, on va le secouer, on va le soumettre, on va le retourner, enfin toutes ces choses finalement qu'on entend encore, hélas, sans parler évidemment de, même s'il y a des choses qui avancent, il y a encore du travail sur le problème de l'usage des instruments coercitifs en matière de, d'éducation. Mais tout ça nous aide à comprendre que, de nouveau, cette question de la violence, ce n'est pas une perte de contrôle, ce n'est pas qu'une question d'impulsion, mais ça a beaucoup plus à voir en fait avec des représentations sociales. Et donc le pendant de ça, c'est donc la valorisation de différentes notions, que ce soit la sensibilité des animaux, voire de la sentience, hein, parlons-en, d'autres manières, en fait, d'autres manières de promouvoir d'autres modèles de relations aux animaux, s'extraire de la coercition et valoriser des notions comme le consentement aux soins chez les vétérinaires, les notions d'empathie, le consentement dans des tas d'autres situations d'ailleurs de la vie des animaux. Parce que finalement, les maltraitances sur les enfants et les animaux, ça a des conséquences qu'aujourd'hui, en fait, les publications sont d'accord de les considérer aussi de façon beaucoup plus parallèle qu'avant. C'est-à-dire, quand on parle de traumatisme, on va parler aussi de traumatisme chez les animaux. On va même parler de traumatisme complexe, autant chez les enfants que chez les animaux. Donc, avec cette idée que quand il y a quelque chose qui se répète dans la durée, que ça commence quand on est jeune et voir qu'il y a une relation dans prise, voire de la séquestration, que c'est effectivement cette notion de trauma complexe, donc de Judith Herrmann, qui est tout à fait pertinente pour décrire à la fois les symptômes et les conséquences à long terme, malheureusement, que cela peut engendrer. Alors, que peut-on faire ? Donc, avant de décliner ça dans le secteur de la prévention, pour moi, la première chose, finalement, à valoriser là-dedans, c'est autoriser, vraiment légitimer les professionnels dédiés aux humains de pouvoir se soucier du sort des animaux. J'ai travaillé 10 ans dans le secteur de la psychiatrie et j'ai pu constater en fait que bien souvent, c'est une initiative isolée d'une assistante sociale qui, parce qu'elle est intéressée par les chevaux et les chiens, a un regard différent. Mais sinon, en fait, on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont là pour les humains et pas pour les animaux. Donc la question quand même, c'est justement comment est-ce qu'on peut autoriser cela, légitimer cette façon de considérer de façon conjointe le sort des humains et des animaux, en sachant donc tout le silence qui peut peser là-dessus, etc. Alors, en matière de prévention primaire, précisément, en dehors des aspects législatifs, en dehors de l'aspect plus éducatif, je vous ai mis un outil pour les enseignants, enseigner le bien-être, etc., donc, qui vise à promouvoir l'empathie et justement d'autres modèles de relations aux êtres vivants. Mais en tout cas, concernant les animaux, pour ces acteurs de terrain, légitimer des questions comme celles qui sont ici citées. Est-ce qu'il y a des animaux dans la maison ? Comment sont-ils traités par les membres de la famille ? Comment sont-ils traités par les personnes qui sont présentes dans le foyer ? Est-ce qu'il y a des raisons de se faire du souci pour eux ? Ces trois petites questions qui ont l'air de rien du tout, mais je pense en fait que c'est un outil qui permet d'aller très loin en matière précisément de détection. En matière de prévention secondaire, la question, c'est la coordination des aides et des services. Et ça, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai fait mon enquête de terrain, du côté du secteur de la protection animale, il y avait des discours qui étaient assez massifs concernant le fait que la maltraitance animale relevait grosso modo de la précarité. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et puis, il y avait des préjugés peut-être tout aussi massif de l'autre côté vis-à-vis de « mais non, la protection animale, c'est de la sensiblerie, c'est pas là qu'elle est importante ». Enfin, donc, il y a quand même, dans cette idée de coordonner, ben, si je me fais du souci pour une femme et des enfants, qu'est-ce que je peux proposer par rapport au sort des animaux du foyer? Est-ce que je vais trouver une place quelque part pour que les animaux puissent être extraits comme les membres de la famille vont peut-être pouvoir l'être, etc. Donc, cette question de la coordination, pour moi, elle est vraiment tout à fait centrale. La question de la formation aussi, parce que quand il s'agit de lever ces représentations, ça nécessite un gros, gros travail. Alors, il y a aussi le problème de la visibilité des violences, et donc, voilà, ça nous aura l'occasion d'en parler. Les vétérinaires, bon, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais les vétérinaires avec qui j'avais pu parler lors de cette étude, était plutôt d'avis que, finalement, dans les visites annuelles, dans le public, finalement, des personnes qui conduisent annuellement les animaux chez le vétérinaire, ben, ce n'est pas nécessairement là qu'on va voir les animaux les plus à risque de violence. Et donc, ensuite, ça soulève la question des développements, des signalements croisés animaux et humains. Je vous ai mis à côté, un petit verbatim d'une inspectrice de police finalement corrobore un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire concernant le fait que, en fait, par le biais des animaux, en fait, on a un moyen d'emprise sur les personnes du foyer qui est assez considérable, et que finalement, quand on fait ce travail-là d'écoute des enfants, de récolte de leurs paroles, qu'il faut pouvoir aussi dire à l'enfant, en fait, le cheval, ton chien, ton chat, je vais pouvoir le mettre à l'abri, parce que sinon, en fait, le poids du silence sera plus fort. Et puis en matière de prévention tertiaire, donc la question de savoir comment se reconstruire après les violences, évidemment que ça fait le lien avec finalement un des secteurs d'activité pour lequel je me passionne beaucoup et dans lequel je suis très investie, donc ce secteur de la médiation animale. Alors, qui est en plein essor et qu'on voit un petit peu fleurir des initiatives, par exemple les chiens de soutien émotionnel à la police, dans le secteur d'écoute des victimes, etc. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas du tout en faire la panacée d'une part, pas non plus justement négliger le fait que tout dépend évidemment de la façon dont les animaux ont été embarqués dans l'histoire traumatique qui est celle des personnes accueillies. Donc peut-être que ça a du sens, je pense que ça en a dans certaines circonstances, mais je pense que évidemment que la prudence est de mise. Et pour conclure, sur une note d'espoir, je voudrais rendre un petit hommage à donc Franz De Waal, donc qui est cet éthologue qui est décédé tout à fait récemment et qui a dédié toute sa carrière finalement à cette idée d'empathie interespèce, et que effectivement finalement on a parlé ici d'une violence qui serait la one violence, une seule violence, mais que par ailleurs c'est intéressant aussi de parler d'une seule santé, one health, du lien donc entre la santé humaine et la présence des animaux, et donc sur le fait que l'empathie c'est un merveilleux outil de travail, mais aussi de vie, et que, ma foi, nos relations au monde et au vivant sont bien sûr plus riches à partir du moment où on peut connaître des individus animaux autour de soi et avec la nature également. Merci pour votre attention.
Merci Bénédicte. Merci de terminer sur une note positive. On fera un petit question-réponse à la fin, je pense, comme ça on est sûr qu'on a... que les deux présentatrices ont bien le temps.
Merci, merci beaucoup. Donc je vais essayer de vous présenter les 6 années d'activité de notre association, donc contre la maltraitance animale et humaine, sachant que parmi les membres fondateurs, on était toutes et tous conscients que les Anglo-Saxons avaient démarré bien avant nous. Les Anglais ont deux termes. Ils ont « the link », qui est le côté noir du lien entre la violence, tout ce qui se passe dans une maison, c'est-à-dire domus, la maison, la violence domestique. Et puis, de l'autre côté, ils ont le mot sympa de bond. Et là, c'est le lien dans tout ce que ça a, l'attachement entre l'animal et son propriétaire, son parent maintenant, avec l'enfant, et tout ce en quoi il peut l'aider à aller mieux, à se reconstruire, à comprendre des choses. On a, en 2018, on a donc créé cette association qui, comme les autres, s'occupe de faire comprendre le lien de toutes les violences domestiques, que ça touche les enfants, que ça touche les personnes vulnérables, que sont les personnes âgées qui ne sont pas toujours reconnues dans ce qu'elles vivent, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les instituts, dans les EHPAD, violence conjugale et la violence animale. Alors, je voulais simplement commencer avec... Finalement, la maltraitance animale, elle commence où ? Parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Et moi, en tant que vétérinaire, j'ai tendance à dire maintenant aussi, parce que je ne suis pas complètement objective, puisque je suis vétérinaire réservée aux chats, donc je suis quand même beaucoup plus sensible à ce qui arrive aux chats, c'est « Oh, mais j'ai trouvé des chatons dans le jardin. Ils sont arrivés tout seuls. » Alors, à Pâques, les chatons naissent dans les jardins. Okay. Et qu'en fait, pour moi, le début de la maltraitance animale, bah, c'est la négligence, le manque de responsabilité, le fait qu'on n'a pas fait stériliser à temps. Donc, la Belgique est un pays formidable où vous avez rendu obligatoire la stérilisation. En revanche, vous n'avez pas totalement précisé l'âge le plus performant pour empêcher la première portée, qui est la portée non désirée, et qui est celle qui génère effectivement ces chatons que les gens laissent. Oh ben, un chaton, ça va se débrouiller tout seul. Ben non, effectivement, le chat est un animal particulièrement génial et autonome, mais non, la vie d'un chat errant et d'un chaton errant, c'est juste terrible. Donc pour moi, oui, la maltraitance animale, elle commence comme ça, soit de façon complètement passive. On n'a pas pris ses responsabilités, on n'a pas anticipé, soit de façon active, parce que j'ai été témoin, moi, entre midi et deux, dans un refuge en France, de voir un carton avec des chatons de deux portées différentes. A priori, c'était la même chatte, la même mère, donc voilà, qui avait été balancée par-dessus le mur du refuge. Et puis, débrouillez-vous, quoi. Donc ça, oui, c'est de la maltraitance à la fois, donc soit passive, soit active. Et parmi les vaccins contre et les actions de protection contre l'abandon, bah, l'identification des chats et leur stérilisation à partir du moment où on n'a pas de projet de reproduction. Donc, 2008, The National Link, National Coalition, c'est l'organisation qui, au niveau des États-Unis, fédère l'ensemble des associations qui s'occupent du Link et qui s'occupent de faire reconnaître ce lien entre toutes les violences domestiques. Et cette phrase de Phil Arco, qui est celui qui l'anime inlassablement depuis 15 ans et qui fait de la bibliographie et qui, tous les mois, nous envoie tout ce qui s'est publié partout dans le monde, plus toutes les avancées juridiques qui se produisent, alors beaucoup aux États-Unis, et donc c'est vrai que la réglementation, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ça bouge beaucoup. Et puis il n'oublie jamais quand des pays comme l'Espagne, qui a bougé récemment sur la question du divorce, nous en France en 2021, de donner les avancées, parce que c'est un côté encourageant entre pays de savoir ce qui bouge. Comment les mots qui sont utilisés, par exemple, les Québécois utilisent le mot bestialité pour la zoocriminalité. Oui, la zoocriminalité. Donc voilà. Et la phrase que inlassablement Phil Arco répète, c'est quand les animaux sont maltraités, les humains sont en danger. Quand les personnes sont maltraitées, les animaux sont en danger. Alors, on peut rajouter un conditionnel, parce que ce n'est pas forcément systématique, mais ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, qu'on soit professionnel de santé humaine ou professionnel de santé vétérinaire, il faut toujours penser que il y a d'autres êtres vivants qui habitent dans cette maison. Et pour rebondir sur une chose très juste que vous avez dite tout à l'heure, Bénédicte, c'est vrai que je pense que autant les vétérinaires, pour nous, le One Health, le Une Seule Santé, on a baigné dans cette éducation-là, et on est parfaitement conscient, d'abord parce qu'on soigne plein d'espèces différentes, normalement, en tout cas à la sortie de l'école, on est capable d'envisager. Alors que les médecins sont focalisés sur une seule espèce humaine, et que de l'autre côté, c'est vrai que les professionnels de santé humaine, je pense, ont beaucoup plus de mal naturel. Ils n'ont pas la culture d'aller demander vous avez un chien, vous avez un chat, comment ça va, sauf s'il y a une morsure sur la personne. Les Britanniques sont aussi bien en avance sur nous avec l'association qui a été dirigée au départ par Freda Scott, donc une vétérinaire, et qui, dans les congrès de la BSAVA, des praticiens britanniques, nous a souvent parlé des « Ah ben le chat est tombé, ben, il est tombé du canapé, ah ben, il est tombé ». Et puis ça se répète. Et moi, il est tombé du tiroir. Non, enfin, c'est pas logique, c'est pas cohérent avec les compétences neurologiques du chat à cet âge-là. Donc, et puis elle a raconté aussi des cas cliniques où, malheureusement, ni la SPA ni le vétérinaire ne s'étaient préoccupés de ce qui était arrivé au chien, qui était tombé d'une loggia. Jusqu'au moment où ils ont appris que le jeune enfant était mort dans le couple. Et donc, des choses comme ça, parce qu'eux non plus n'avaient pas ce système de signalement croisé, leur a fait prendre conscience de l'importance de croiser les informations et de systématiquement questionner des choses que disent les propriétaires et d'aller au-delà de ce qu'on voit d'abord et de ce qui est dit. Donc, en ce sens, le diagnostic du vétérinaire ou la suspicion qu'il a d'une maltraitance animale, ça peut sauver non seulement des vies animales, mais ça peut sauver des vies humaines. Donc, en France, j'ai eu la chance d'assister en 2011 à la première soirée qui avait été organisée à l'initiative de l'École vétérinaire de Lyon avec un certain nombre des membres fondatrices, Dominique Autier-Derian, Denise Remy, de notre association. Et donc, en 2011, ils avaient réuni à la fois psychiatre humain, Jean-Paul Richier, qui a toujours été extrêmement, lui aussi, fait de la veille scientifique sur l'ensemble des articles et qui ont évoqué pour la première fois publiquement ce concept du link. Alors, à l'époque, 2011, pas de réseaux sociaux, pas ce qu'on connaît maintenant. Donc, ça a eu, évidemment, il y a eu des articles dans la presse, mais c'est une petite graine qui a fait son chemin. Avant, il y avait déjà eu des symposiums organisés par la Fédération européenne de médecine féline avec des visuels où on comprend bien que dans un dessin, un enfant peut en dire beaucoup plus que ce qu'il serait amené à dire sur ce que lui subit. C'est-à-dire que quand il dessine son chat et lui, et en disant « mon père, il traite mon chat de manière extrêmement déplaisante, comme il traite ma mère », ben, on comprend ce qui se passe à la maison. Et en ce sens, les instituteurs, les institutrices peuvent aussi en découvrir beaucoup plus et beaucoup plus facilement que nous. De la même façon, les infirmières dans les unités d'accueil pédiatrique des enfants sans danger, des enfants en danger, et qui souvent nous disent, en fait, c'est impossible pour l'enfant. Enfin, il peut pas dire du mal, techniquement parlant et psychologiquement parlant, de son père ou de sa mère. C'est juste un conflit de loyauté. En revanche, dire ce que subit son chien ou son chat, ça oui, il peut le dire. Parce que c'est plus faible que lui, c'est plus petit que lui, et il veut surtout savoir si c'est normal ou pas normal ce que subit son chien ou son chat. Et donc là, ce qui est important, c'est la réponse que va lui apporter l'adulte et la personne d'autorité, entre guillemets, parce qu'en tout cas, l'enseignant ou l'infirmière. Et donc du coup, on avait tenté en 2016 de créer l'association pour un certain nombre de raisons purement humaines, parce que les journées n'ont décidément que 24 heures. On a fini par le faire qu'en 2018. Donc avec des vétérinaires, des juristes, Marie-Josée Anders-Legers, qui est prof de psychologie aux Pays-Bas, et on s'est lancé dans cette aventure. Alors, entre 2018 et 2021, je trouve qu'on a mis un temps fou. En même temps, on a choisi d'emblée de se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour mieux faire connaître The Link ? Il faut qu'on apporte des outils aux vétérinaires et aux équipes vétérinaires, parce que c'est eux qui sont les premiers, et puis c'est chez eux que la cause est la plus légitime. La majorité des consoeurs et des confrères savaient le lien qu'il y a entre les violences. Donc on a traduit et adapté, parce que ça c'est aussi une particularité de chaque État européen, c'est que nous avons tous des lois différentes. C'est une grande richesse. Mais en revanche, si on veut adapter un outil qui a déjà été développé dans un autre pays, il y a des choses qu'on ne pouvait pas écrire. Entre autres, les Britanniques avaient déjà à ce moment-là les signalements croisés que nous n'avons pas. On a bénéficié, en octobre 2021, le guide était prêt, mais ça faisait déjà plusieurs mois que nous étions sollicités dans le cadre de ce qui est devenu, à la fin novembre, la loi dite Dombreval, du nom de mon confrère Loïc Dombreval, qui l'a portée en tant que député. Et cette loi s'est appelée « Loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes ». Et c'est intéressant que dans l'intitulé de la loi, ils aient bien précisé le bon côté du lien. Mais à l'intérieur de la loi, ce qui a été précisé et ce qui nous a contraint à faire une deuxième édition, donc en juillet 2023, ça a été la levée du secret professionnel des vétérinaires quand il y a une maltraitance animale avérée grave. Et ça, c'était une question extrêmement partagée, à la fois des autorités, à la fois des confrères, en disant mais si on n'a pas de, si on n'a pas de preuves, mais ce sont nos clients, mais on n'a pas été formés. Ça, c'est vrai. C'est un des problèmes, c'est que la formation, elle vient juste de démarrer. Il y a une formation spécialisée qui vient de démarrer là en juin dernier à l'école vétérinaire de Lyon. Donc la question de la levée du secret professionnel dans des professions médicales, généralement, fait peur parce qu'on va rompre le lien de confiance. En fait, non, c'est important parce qu'on va signaler au procureur une suspicion qui est forte. On ne va pas donner des preuves, on va donner des éléments et on va signaler. On ne va pas dénoncer, ce qui est un mot, en général, tabou. Dans le vocabulaire. Donc ça a permis que nous fassions une deuxième édition de ce guide. On a eu la chance de pouvoir le faire imprimer, parce qu'on a beau être pour le développement durable et protéger la planète, il faut quand même bien admettre une chose, c'est qu'on avait envoyé le PDF à un certain nombre d'acteurs, et je dirais quand même au plus haut plan, puisqu'on a le privilège que le président du Sénat ce soit un confrère. Et très clairement, l'été dernier, alors aussi parce que ça intervenait après un autre événement, recevoir un document papier, le remettre, on a eu le plaisir de le remettre à des organismes de lutte contre les violences faites aux femmes, etc. C'est matériel, c'est incarné, il y a quelque chose, on voit, on se rencontre, on feuillette et voilà. Donc dans ce guide, on a donné pour les vétérinaires et leurs équipes le contexte bibliographique, pas aussi complètement que celui que Bénédicte vient de vous fournir, mais un résumé. On a donné l'état du droit et les moyens disponibles. Expliquer comment la maltraitance pouvait être incluse dans le diagnostic du vétérinaire. C'est-à-dire que cette notion qui est fondamentale, c'est que c'est pas forcément un traumatisme, mais ça peut être un traumatisme intense. C'est pas forcément accidentel. Ça peut être intentionnel ou par négligence. Le chat, il est tombé du balcon. Comment est-il tombé ? Est-ce qu'il manquait de protection, il n'y avait pas de filet ? Est-ce que le chat a vu passer une chauve-souris, a vu passer une guêpe, il a oublié ? Les choses sont quand même futées. Est-ce que quelqu'un aurait poussé le chat ? Ça, c'est une question qu'en tant que véto, enfin, moi, depuis 40 ans, je me dis, mais souvent, on a fait des articles, et puis il y a des articles scientifiques, hein, le chat parachutiste. Oh, il lui est rien arrivé, il est tombé. Eh ben, même pas de fracture, il est tombé. Mais est-ce qu'on se pose la question de comment ? Peut-être ce serait intéressant. Et puis après, bon, il y a d'autres dans le diagnostic de la maltraitance. Il y a les fractures sur les côtes, il y a les brûlures. Il y a plein de choses. Les animaux qui sont pas assez nourris, qui sont en état cachectique. Enfin voilà. Donc apprendre à les reconnaître, savoir ce qu'il faut faire, et puis donner des outils. Et notamment, depuis la loi d'Ombreval, donner les outils pour faire un signalement au procureur. Donc, on a appliqué la méthode britannique, c'est-à-dire demander, interroger le patient sur d'éventuels maltraitants, sur les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. Valider, promouvoir l'idée que la violence est totalement inacceptable, c'est pas normal que l'animal ait souffert, documenter par écrit toutes les informations qu'on a reçues, faire des photos, faire des radios, et ensuite référer la victime, la propriétaire à des spécialistes de la violence domestique et signaler aux autorités compétentes. Donc voilà les outils qu'on a mis à la disposition des vétérinaires, qui ont été validés par le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires avec des outils donc pour les signalements et des notices d'explication. Ça, c'est la démarche complète d'investigation, parce que ce qui est difficile aussi pour les vétérinaires, mais comme elle est difficile pour les médecins, c'est qu'on est dans un métier de soins, on est là pour porter assistance, on est là pour aider, on est là pour réparer, on est là pour guérir. On peut pas. C'est difficile. Ça demande un exercice intellectuel qui est difficile d'imaginer que l'animal a été maltraité pour en arriver là. Or, parfois, c'est quand même bien la seule conclusion qu'on puisse avoir. Et du coup, ça nous pousse aussi à questionner autrement la personne et aussi parfois à faire attention que la personne qui apporte l'animal peut être l'auteur des faits. Donc là, la mise en danger, elle peut être aussi importante. Donc c'est important aussi d'apprendre à questionner, comme des méthodes québécoises le préconisent pour les pédopsychiatres et pour les psychologues, de telle sorte de poser des questions sans juger pour récupérer les bonnes informations et pas se mettre en danger. L'association a aussi fait des communiqués de presse, publié des articles. Alors, on a notamment fait un dossier complet sur la médecine légale vétérinaire. À l'époque, donc, il n'y avait pas de formation. Donc, cette formation est désormais possible depuis le mois de juin. On a également un communiqué de presse qui a fait réagir l'administration. Il y avait eu un rapport qui avait pris un temps fou pour être publié sur les chiens de catégorie et les chiens dangereux. Et de mémoire, sur 500 pages, il y avait deux fois où, dans le PDF, l'occurrence sur le link et sur le apparaissait, et c'était dans les notes de bas de page. Et à aucun moment, on envisageait qu'un chien dangereux puisse être un chien témoin de violences domestiques ou un chien qui se rebelle contre des maltraitances qu'il subissait lui-même. Alors que c'est une notion de bon sens qu'on va demain interroger des personnes dans une salle d'attente de vétérinaire où voilà, ça paraît évident que, ben oui, il y a des chiens qui défendent leur maîtresse quand ils voient comment elle est maltraitée, il y a des chiens qui se rebellent. Mais en termes juridiques, la notion de co-victime, elle commence juste à être ouverte aussi pour les enfants. Donc, on avait effectivement mis sur le terrain public, avec un communiqué de presse, cette réflexion en s'interrogeant. Communiqué de presse qui a eu du retentissement aussi, qu'on a eu la chance de pouvoir faire avec la Voix de l'Enfant, qui est donc une association qui fédère plus de 80, je crois, associations de protection de l'enfance. C'est donc en février 2022. Je vous épargne les vidéos. C'était le footballeur Zuma, qui est donc français, qui est en Grande-Bretagne, et dont le frère, sur Twitter, diffuse des images où on voit que ce footballeur a effectivement un joli coup de pied, sur ses Bengals, chez lui. Parce qu'un de ces Bengals avait, je crois, renversé, peut-être cassé un vase. Et nous, ce qui nous frappe dans notre dans l'association AMA, c'est de voir que au moment où il frappe le chat et ensuite où il essaie de l'attraper à nouveau, c'est un de ses enfants qui lui tend. On ne sait pas s'il tend le chat ou s'il protège le chat. C'est pas clair. Mais ce qui est clair sur les vidéos, c'est qu'il y a deux enfants qui sont témoins des violences que leur père fait sur le chat, et que donc il y a bien deux victimes qui sont les chats. Et qui ont été tout de suite pris en charge par les sociétés de protection animale en Grande-Bretagne, mais que la presse britannique n'a absolument pas parlé du fait qu'il y avait des enfants qui étaient témoins et qui donc eux aussi étaient victimes de cette violence. Et ça, c'est aussi quelque chose dans les co-victimes. Maintenant, on en parle, et la police en est parfaitement consciente, mais c'est quelque chose que les juristes envisagent moins aisément. On a mis en place, donc en mai 2022, le site internet qui a eu l'avantage, entre autres, de rendre disponible le guide en version numérique, de donner un certain nombre d'éléments bibliographiques à celles et ceux qui en avaient besoin, d'avoir le signalement possible en ligne, remplissable. Mais surtout, on a mis, en faisant comme on l'avait vu faire sur l'association Nous Toutes, une carte de France sur laquelle tous ceux qui en ont besoin, et essentiellement les équipes vétérinaires, peuvent trouver facilement tous les interlocuteurs dont ils ont besoin, c'est-à-dire les services vétérinaires, les DDPP, auprès desquels ils sont réglementairement tenus de faire un signalement des maltraitances animales qu'ils observent. Pouvoir renseigner les victimes en donnant les coordonnées de la police, donner les noms des principales associations de défense des femmes victimes de violences conjugales, ainsi que les CRIP, qui sont les cellules de recueil des informations préoccupantes, c'est-à-dire quand il y a un enfant en danger au sein d'un foyer, tous les professionnels et tous les citoyens sont obligés de se mobiliser pour faire tout en œuvre pour que l'enfant soit protégé des maltraitances qu'il subit. Donc ça, c'est un outil particulièrement pratique. Et puis, en mars 2023, on a eu la chance. Alors, c'est un travail qui a été amorcé 2 ans auparavant, donc ça a demandé du temps. Nous avions été contactés. Alors, j'avais été contactée à titre personnel, parce que c'est là la difficulté entre le politique, l'ONG, l'administration. J'avais été contactée par le sénateur Arnaud Bazin, qui est un vétérinaire, et qui souhaitait réfléchir justement sur le lien entre les violences. Donc, je faisais partie du groupe à titre personnel, et donc ça a débouché sur l'organisation d'un magnifique colloque le 17 mars 2023, que nous n'aurions été, nous, notre association, jamais en mesure d'organiser, bien sûr, seul, mais qui a été organisé sous couleur d'un parti politique, qui est celui d'Arnaud Bazin, avec en co-organisateur François-Xavier Bellamy, pour député européen. Et ça a permis enfin de faire sortir pour beaucoup de personnes, puisqu'il y avait des politiques, il y avait des alors les politiques de tous les partis sont venus. Ça, c'était intéressant de voir que tout le monde s'y intéressait. Des juristes, bien sûr, il y avait des vétérinaires, il y avait beaucoup d'ONG de protection de l'enfance et des animaux, il y avait des travailleuses, travailleurs sociaux. Les professionnels de santé, il n'y en avait quasiment pas. Ça, c'était notre regret. Il y avait 200 personnes. Et il y a eu surtout une couverture journalistique remarquable qui a fait que le sujet « Une seule violence », maintenant, en France, on a tendance à plus parler de Link, mais à parler « Une seule violence ». Donc, ce n'est pas exactement la même chose, parce que, en revanche, ça a permis, au moment du colloque, de faire émerger une notion qu'au niveau de notre association, on n'avait certainement pas eu aussi clairement, une notion que nous, on trouvait, pour nous, qui était évidente parce qu'on la lisait dans les publications, mais dont on ne pensait pas qu'elle échappait autant à des hommes aussi remarquables que des procureurs, des juges, voire des politiques, qui est que, effectivement, une femme sur deux renonce ou retarde à quitter le domicile conjugal parce que son animal est victime de menaces et que si tu pars, je le tue. Et ça, ils n'en avaient pas conscience. Pour l'avoir dit à un procureur, qui par ailleurs, celui-ci n'a pas pu venir malheureusement au colloque, mais j'entends encore son étonnement au téléphone et « Ah mais oui, vous avez raison. » Finalement, parce qu'on dit quelque chose, il réalise à quel point c'était vrai. Et ça, ce frein qui a été dit pendant le colloque à plusieurs reprises d'ailleurs par les policiers, parce que les policiers disent elles viennent porter plainte, elles viennent retirer leur plainte. Ils voient bien, et les policiers voient aussi l'autre versant, c'est-à-dire j'étais très reconnaissante aussi aux forces de l'ordre d'avoir évoqué les premiers, et c'est beaucoup plus fort quand c'est eux qui en parlent en disant... Mais quand on va, dans certains foyers et qu'on voit, mais les chiens, mais ils sont victimes aussi, les chiens, vous voyez ce qui se passe? Et en fait, la notion de co-victime sur le terrain, eux la voient, la constatent et la disent. Et donc, le bilan de ce colloque a été remarquable. Vous avez les actes qui ont été publiés sur la revue trimestrielle de la... De la revue de droit animalier. Sur le site d'AMA, vous trouverez aussi un compte-rendu. Et puis, pour chaque partie du colloque, vous aurez accès à au replay, si vous voulez aller voir l'ensemble, parce que c'était une journée entière, c'était dense. Il y avait de l'émotion, il y avait des témoignages. Mais c'est une journée qui a véritablement changé la façon dont les choses sont perçues en France. Alors, pour autant, on n'en est pas encore à des visuels comme ça, comme aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont l'avantage de faire plein de choses avant nous, parfois un petit peu à l'extrême, mais en même temps, ils font bouger les lignes. Ben oui, les chiens et les chats, ils sont pas là que pour réduire notre pression artérielle. Donc, ils peuvent aussi aider à détecter les violences. Donc, l'idée que l'animal est à la fois sentinelle des violences et souffrances domestiques, mais aussi témoin, c'est important, ce double rôle, et aussi qui sont bien sûr des lanceurs d'alerte potentiels. Bénédicte vous a parlé de l'étude de Laurent Beg qui a permis aussi, parce que malgré l'ensemble de la bibliographie qui existe depuis quand même 30-40 ans sur la discipline, les francophones aiment bien quand même avoir des états des lieux sur et nous. Le premier animal qui est maltraité par ses adolescents, c'est le chat. Alors que c'est pas le plus facile à maltraiter. Logiquement, le chien... aurait vraisemblablement été la première victime, mais non. Parmi les leçons éducatives, je partage complètement ce que Bénédicte a dit. Et pour moi, effectivement, il y a une expression que j'aimerais, elle sort du vocabulaire français. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre vocabulaire belge aussi, mais il faut arrêter de traiter, pas se laisser traiter comme un chien, et puis surtout mieux traiter les chiens. Parce que l'éducation bienveillante, enfin, tous ces concepts auxquels on arrive, sont importants justement pour que l'enfant ne grandisse pas comme dans le foyer de Zuma, avec l'idée que la violence, c'est normal. C'est comme ça qu'on règle... D'abord, c'est comme ça qu'on devient un homme, parce qu'on est capable de donner des claques. Non, il n'y a pas de petites claques. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut... La violence, elle n'a pas à faire partie de l'intimité. Elle ne doit pas être minimisée. Elle ne doit pas être niée. Et elle ne permet pas d'obtenir ce qu'on veut. Donc voilà. On intervient aussi... Émilie DeMarco est intervenue dans des formations pour nous toutes. Donc il y a une formation, il y a des formations pour des informations pour l'instant, plus que des formations avec les vétérinaires praticiens qui ont été mises en place à la fois les vétérinaires, leurs auxiliaires et les étudiants, parce que ça les étudiants c'est important de les sensibiliser aussi dès l'école vétérinaire. Et puis à chaque fois qu'on peut, on fait participer procureur Franck Rastoul à Toulouse, des infirmières à Nantes de l'unité d'accueil. Enfance en danger. Parmi les choses dont il faut se réjouir, et là de voir à quel point ça a avancé, juste avant la dissolution, le dernier texte adopté à la majorité totale a été celui-ci, qui était sur la sécurisation de l'animal. Alors, au milieu du texte sur les ordonnances de protection des femmes victimes de violences. Et ça a été bien précisé que le juge aux affaires familiales peut attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal domestique détenu au sein du foyer, de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème de chantage et de mise en danger de la femme via l'animal. Alors c'est sûr que les députés et les sénateurs ont pris la décision pour protéger l'humain, mais quand même c'est un joli pas parce que deux années avant, nous avions le président de la commission qui s'occupait d'une première proposition sur ça, qui avait dit « Mais l'amendement conduit à mettre sur le même plan les animaux et les êtres humains. Trois points de suspension. Il est nécessaire d'approfondir le sujet et de trouver des solutions plus adaptées. » Donc on avait bien vu à l'époque que « Vous n'allez pas considérer les animaux comme des humains ?» Donc les choses ont quand même, en deux années de temps, là, bien évolué et on ne peut que s'en réjouir. Donc ça s'est fait parce que c'est vrai qu'on a fait un travail de lobbying, c'est vrai qu'on a beau être une petite association, ben, si on parle, comme le disait Gaïa ce matin, au bon moment, aux bonnes personnes, et que le contexte fait que les gens ouvrent enfin l'esprit et l'oreille à ce qu'on leur dit, et qu'en plus on leur donne des publications scientifiques, parce que ça, clairement, ça a beaucoup aidé de leur montrer, oui, les femmes renoncent à partir, oui, même quand la violence se fait sur les troupeaux de bovins, c'est une publication canadienne, ou quand c'est des éleveurs de chevaux, c'est la même chose, hein, elles disent, non, mais si je pars, il va tout, ça va être l'horreur, donc elles partent pas. Donc ça, c'est important. En revanche, la veille scientifique, ben, c'est quelque chose qui prend du temps. La dernière étude là, qui vient de paraître sur le fait que quand au moment où les enfants quittent brutalement le foyer pour être placés et pour être sécurisés, et où les animaux ne peuvent pas partir avec eux. Et ça, c'est juste un drame absolu. Bon, c'est une étude sur 22 enfants, ça paraît... c'est pas un échantillon hyper représentatif, mais ce que les enfants disent, c'est que l'animal était l'écoute et le soutien inconditionnel. Un des gamins dit « La moitié de moi a disparu ce soir-là au moment où ils sont exfiltrés et où ils doivent partir. » Une autre dit... parce que dans le foyer où elle est, bah évidemment, il n'y a pas son chien. Elle dit « J'avais des tas de chiens sur mes pieds la nuit, j'étais protégée. » Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut trouver une solution. Et dans le nord de la France, plusieurs juges et procureurs ont réussi, eux, à faire autre chose. C'est à placer les hommes violents et à laisser dans la maison les enfants, les femmes et les animaux. Parce que c'est quand même logique, c'est juste. Mais en revanche, si on pense qu'on met tout le monde en danger, parce qu'évidemment, le lieu est connu de la personne violente, bon, là, c'est plus possible. Mais il faut quand même y réfléchir à deux fois. Nouveauté en France, le 3677. Depuis le 24 juin, nous avons un numéro gratuit auquel on peut appeler 24 heures. Alors, pas tous les jours, mais pas tout le temps. Donc voilà, quand on a une suspicion d'animal maltraité. Et puis, nous avons donc en juillet testé sur la région de Lille, grâce au soutien de la mairie de Lille, une affiche pour les salles d'attente des vétérinaires pour sensibiliser à la fois les équipes vétérinaires et aussi les propriétaires de chats et de chiens. Et c'est un dessin d'enfant, et c'est Jessica Dépigny, qui est une jeune vétérinaire, qui a consacré sa thèse à ça, qui a eu cette idée lumineuse de ne pas faire un montage. Elle avait eu des propositions, elle nous avait fait des propositions de montage photo, enfin, comme on voit toujours avec le point, avec un peu crash. Bon. Et elle a eu cette idée de faire réaliser par un de ses petits-neveux, autant que je me souvienne, un dessin pour enfants, très chouette, avec la maison, la femme qui pleure, le lapin qui est dans une cage et la simple mention « La violence domestique peut frapper chaque membre de la famille, rien ne la justifie. Vous n'êtes pas seul, votre vétérinaire peut vous aider, vous et vos animaux. » Et on a mis les numéros de téléphone, donc le 3919 pour les femmes, le 119 pour les enfants, le 3677 aussi maintenant, et voilà. Et donc c'est des... des actions comme ça que notre association mène. Il en reste amené notamment de faire comprendre que dans la roue du pouvoir et du contrôle, bah, les animaux sont aussi utilisés que les enfants. Et puis, on essaie, à chaque réunion qu'on organise, de promouvoir quelque chose que les professionnels de santé doivent faire en France. A priori, quand ils sont formés, ils sont 8%. Quand ils ne sont pas formés, ils ne sont que 4% à le faire. Qui est le questionnement systématique, avec un questionnement ouvert, tout simple. Comment ça se passe à la maison? Et ça veut dire qu'il faut avoir du temps. Il faut être prêt à ce que la personne ne réponde pas, ce qui peut parfois être décevant si on sait vraiment qu'il se passe des choses terribles, on voit bien, mais on ne peut pas forcer. Et se préparer aussi à entendre ce que la personne va enfin dire et qu'elle n'aura certainement pas pu révéler avant. Et c'est vrai que dans les cabinets vétérinaires, dans les cliniques vétérinaires, souvent, on a un niveau de confidence, il y a quelque chose qui se passe qui peut être assez magique, mais qui peut aussi... avoir un certain poids psychologique. Donc il faut y être prêt. Mais c'est comme ça, je pense qu'effectivement, on pourra comprendre qu'il n'y a pas de petite maltraitance, il n'y a pas de petite violence, et que toutes les violences, elles sont délétères pour le développement de l'être humain, des animaux et la qualité de leur relation. Donc ça... Il faut essayer de faire une chaîne avec l'ensemble de tous les intervenants, les associations de protection des femmes, des enfants, les avocats, les services sociaux, les procureurs, les équipes vétérinaires, la police, l'éducation nationale, qui a un grand rôle à jouer. Et voilà, et tous ensemble, si on se coordonne, ben je pense qu'on peut faire en sorte que... Comme l'a écrit Thomas d'Ansembourg, et j'ai oublié David, son co-auteur, la paix, ça s'apprend. Ben oui, mais ça se travaille surtout. Et donc, la paix entre nous, et entre nous et nos animaux de compagnie, et les animaux en général, ben, c'est une belle ambition qu'il faut qu'on réussisse à obtenir. Merci.
Merci Anne-Claire, merci Bénédicte, c'était bien intéressant. J'ai senti que tout le monde était attentive, malgré la macarena là dehors. Bon, il nous reste quelques minutes. Je crois que madame, vous avez une question tout à l'heure. Hein. Je vous ai fait un peu attendre. Vous ne l'avez pas oublié, ça va? Super, je vous cède la parole.
Ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Ça a été effleuré, mais on n'en a pas parlé. C'est que l'abandon d'un animal est une double maltraitance pour l'adulte, mais surtout pour l'enfant. Parce que on coupe un lien et aussi on lui dit « Ah, cet animal-là ne nous convient pas, il a un comportement inadéquat, ça peut arriver aussi implicitement. » Et on ne le dit pas assez.
Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça ou...
Oui, c'est vrai. Et l'autre chose aussi dans les abandons, c'est qu'il y a parfois aussi des abandons sur des troubles du comportement qui, en fait, ce matin, ma consoeur Fabienne Marchand en parlait, des chiens de quelques mois qui sont hyperactifs et hypersensibles, hyperactifs. Et s'ils étaient simplement médiqués, pris en charge à la fois comportementalement et médicalement, voilà, ils vont grandir bien et faire une belle vie auprès de leurs humains de compagnie, mais que souvent, il y a des gens qui demandent à Dr Google ce qu'il en pense, pensent qu'un animal qui est hyperactif, bah, c'est parce que j'ai pas assez d'autorité, donc qui en rajoute, et au final, effectivement, ça finit avec des abandons, de l'agression sur les chiens et de la part des personnes, alors que consulter son vétérinaire et accepter le diagnostic et le prendre en charge, voilà, ce serait bien.
Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... réactions, questions?
Vous parliez tantôt du secret médical pour les vétérinaires. Le problème, c'est le secret médical aussi pour les psychologues, par exemple. Parce qu'il peut être levé si vraiment il y a un risque pour l'enfant, mais ça devient compliqué de justifier qu'il y a d'abord un risque pour l'animal sans que l'enfant ne soit à risque.
Enfin, répondre et en fait vous adresser la question, mais c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'échanger avec...
une magistrate française qui parlait de cette levée du secret professionnel. Et sauf erreur de ma part, elle disait qu'il y avait maintenant de la jurisprudence, en fait, c'est-à-dire que des vétérinaires qui n'auraient pas dénoncé, en fait, il y a eu l'une ou l'autre décision, bah, en fait, condamnant le fait qu'il n'ait pas réagi, alors que... est-ce que vous pouvez confirmer ça ou...
Alors, je ne suis pas au courant s'il y a déjà jurisprudence ou pas, mais en revanche, on l'a écrit dans le guide de la part d'une pédopsychiatre. En revanche, pour les gynécos, les pédopsychiatres, c'est clair qu'il y a une jurisprudence, effectivement. Si ne pas le dénoncer, c'est répréhensible.
Je parlais du côté vraiment...
Oui, mais là, pour l'instant, je vais poser la question. Ouais.
À creuser encore. Mais monsieur là avait une question, non? Oui.
Mais j'aimerais bien avoir votre avis, sur la notion de secret, justement, de secret professionnel dans le cadre de la maltraitance des êtres humains. On sait que la force du secret. Et donc, quel est votre sentiment par rapport à ça? Parce qu'il y a un côté, la relation de confiance qui fait que les personnes peuvent parler. Et versus devoir protéger les gens. Donc je suppose que vous êtes confronté à ce genre de problématique. Maintenant, peut-être que c'est géré par les lois, hein, mais...
Merci. Qui veut répondre?
Alors, moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas avoir la réponse technique par rapport à ça, mais en effet, c'est tout à fait encadré. Enfin, il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Par rapport au secret, enfin, le pendant, en fait, que j'ai plus eu l'occasion de travailler par les enquêtes de terrain, c'est plutôt sous l'angle du silence, en fait. C'est les processus de silenciation, enfin, de mise au silence des victimes. Et en fait, de ce que ça implique pour une personne, de surmonter la culpabilité, la honte, le sentiment d'être sali par ça et de se dire, en fait, je peux le dire et oser le dire et le confier et le déposer. En fait, c'est plus à ça, en fait, c'est plus sur ces questions-là que moi, j'étais amenée à travailler. Mais bon, en dehors de ça, et c'est pour ça que je vous tendais le micro aussi, c'est parce que je pense que par rapport à des professions comme celle de psychologue, comme celle d'assistant social, comme celle de médecin, comme celle de vétérinaire, en fait, tout ça, en effet, est défini par la profession.
Oui, oui, nous, c'est la possibilité qui est faite, et c'est une possibilité depuis la loi du 30 novembre 2021. Donc, du coup, de signaler effectivement au procureur les maltraitances animales graves. Et en revanche, à partir du moment où on sait qu'un enfant est en danger, la loi s'applique, mais comme à tout le monde. Donc,
c'est non-assistance à personne en danger si on ne le déclare pas, quoi.
Merci, tout ça est très intéressant. Je vais me permettre une question, une réflexion qui est peut-être un peu hors du champ de ce que vous avez vraiment exploré ou ce qui est dans votre travail, mais il y a des dimensions juridiques, législatives, donc politiques, dans tout ce que vous avez évoqué comme progrès. Et l'idée m'est venue quand vous avez parlé tout à l'heure de ce colloque où était présent, entre autres, M. Bellani. Moi, je constate depuis des années que la question du bien-être animal a souvent été mise à l'agenda. Alors, en termes de communication, plutôt par l'extrême droite, en fait, très fréquemment. Or, typiquement, vous parlez du continuum des violences, l'extrême droite, c'est l'autoritarisme, c'est le masculinisme, c'est justement une continuité de violence et d'autoritarisme, y compris vers les enfants, où souvent ce sont des partis qui refusent, par exemple, des processus comme l'interdiction de la violence éducative, etc. Et donc, il y a une forme de paradoxe. Alors, est-ce que c'est juste en termes de communication et ce n'est pas préoccupant, ou est-ce qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à cet enjeu-là? Comment se fait-il que c'est de ce côté-là du spectre politique qu'il y a le plus souvent des discours sur le bien-être animal, alors parfois caricaturaux, paradoxaux, en mode « plus j'aime mon chien, moins j'aime les hommes hein », donc quelque chose de ce ordre-là. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose ou si je suis trop hors champ.
Moi, ça me rappelle une conversation que j'ai eue il y a très 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 longtemps au moment de la journée de la nature et de l'animal, en 89. L'association a vécu 3 ans et avec, à l'époque, j'étais à Orléans, avec le maire d'Orléans, qui était Jean-Pierre Sueur, qui est sénateur maintenant et qui est socialiste. Et je lui disais, mais c'est quand même paradoxal, justement, ça, on a l'impression que... Pourquoi est-ce que c'est plus des gens comme Chirac ou... qui ont un rapport très naturel à l'animal et qu'on a l'impression que vous, C'est d'abord l'être humain et les relations. Donc, je ne sais pas, ça, mais c'est peut-être une question, effectivement, à se poser. En même temps, je pense que là, de l'autre côté, quand même, les écologistes, souvent, ont une approche, alors qu'il y a une approche plus faune sauvage, du coup, moins les animaux de compagnie. C'est une question peut-être à envisager et à comprendre. Je sais que normalement, dans les programmes politiques, on peut voir qui le met dans ses programmes. Après, la question, c'est qui le fait.
Tout à fait. Et ça rejoint le débat qu'on avait ce matin en disant, ben voilà, il y a ceux qui communiquent extrêmement bien, puis ceux qui agissent et peut-être qui communiquent un peu moins bien. Mais ça, c'est un autre débat.
Juste peut-être évoquer la géométrie variable aussi, c'est-à-dire que on peut parler de la chasse, on peut parler en effet un peu de l'animal alibi en fait, de l'animal et d'un certain type de rapport à l'animal qui va quand même être embarqué dans les mêmes logiques en fait. Oui, c'est très complet, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à déplier en fait derrière ça.
Une vraie question, ça mérite au moins une journée ou plus, une semaine. Est-ce qu'il y avait encore une réaction ? Oui.
Ce n'était pas vraiment une vraie question, mais c'était aussi un peu une réflexion et voir un peu ce que vous en pensez. Dans le gros élevage, en fait, on parle de surface utile par rapport au gros bétail dans l'élevage, par rapport aux petits animaux de compagnie. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'un chat ou un chien, en fonction de la quantité qu'il y a dans le ménage, doivent avoir une surface utile de vie pour eux, quoi. Là, ce que je voulais dire, si ça pouvait être considéré comme une certaine violence quand c'est constaté visuellement par un voisinage, quoi.
Oui, alors moi, souvent, et dans mes livres de comportement pour le chat, j'ai dit, parce que c'est écrit aussi dans un certain nombre de publications, 20 mètres carrés pour un chat qui vit avec un couple, mais la question, c'est, il y a certains appartements parisiens qui sont beaucoup plus petits pour les humains. Donc, on a toujours un peu de peine à donner ça, mais en même temps, ça rappelle aussi que la qualité de vie et de l'environnement, elle est importante pour toutes les espèces. Et d'un autre côté, dans la réglementation française, c'est 2 mètres carrés par chat en refuge, et la façon dont la majorité des refuges additionnent 2 plus 2 plus 2 plus 2 et dans une pièce de 20 mètres carrés mettre 40 chats, voilà, et là on a un problème de bien-être, ça, c'est très clair. Et après, comment fait-on? Mais en Grande-Bretagne, ils les hébergent individuellement, les chats, chacun dans une cabine avec un accès dehors, et c'est un choix.
Oui, enfin, là, je vais répondre plus par rapport aux chiens que je connais mieux que les chats, mais c'est vrai que parfois on peut être choqué, un grand Saint-Bernard dans un petit appartement, et puis on voit le bout de son nez qui dépasse sur le balcon, mais ça va être une dame qui promène son Saint-Bernard 2 heures par jour, et en fait, peut-être que ce chien sera mieux que d'autres, où on se dit, il a un jardin, et en fait, la routine et la monotonie font en fait que celui qui a un jardin mais qui n'est pas promené sera probablement beaucoup moins bien que celui qui est dans une plus petite superficie. Et donc, il y a aussi maintenant ce qu'on diffuse quand même beaucoup plus largement qu'il y a quelques années, toute cette idée d'enrichissement, et qui est quand même une façon aussi de proposer d'habiter l'espace autrement, et que même s'il est petit, il y a moyen de mettre de la variété, de répondre donc à différents besoins, de rendre habitable en tout cas la surface autrement. Donc voilà, je pense que ça nécessite de la nuance en fait.
Merci. Je vais peut-être tout doucement conclure. Mais c'est vrai que c'est une bonne question qui soulève en fait à quel point c'est complexe, comme tu le disais, où commence la maltraitance et justement du coup comment outiller pour détecter ça, alors que oui, finalement on a les vétérinaires qui font des années d'études et qui doivent faire un diagnostic complet. Et donc aussi le challenge de donner des outils à des personnes qui ne sont pas vétérinaires mais qui sont bien placées pour aussi détecter ces violences. Bon, je ne vais pas vous faire un grand résumé, mais je vais vous faire un truc en une minute. Mais merci déjà pour ces échanges. échange. J'espère qu'en ressortant d'ici, quand voilà, vous entendrez parler d'une situation de détresse humaine, ben, vous direz « Ah ouais, tiens, est-ce qu'il y a des animaux là derrière ?» Et à l'inverse, quand on entendra parler voilà, d'animaux en détresse, on se dira ben, « Peut-être qu'il y a aussi des humains, des enfants, des femmes qui sont aussi voilà, en souffrance. » je voudrais retenir peut-être deux choses. Première chose, ben voilà, on voit que allez, c'est pas très rigolo comme sujet, mais on voit qu'il y a quand même des solutions qui se mettent en place, notamment voilà, l'importance de, comme tu disais, autoriser, légitimer l'action des professionnels de chaque secteur pour voilà, aider à détecter les violences envers les humains ou envers les animaux. Informer, former, outiller, ça, on voit qu'il y a des guides qui existent, des sensibilisations à faire parfois de procureurs, de tous les professionnels. On voit ici, on a un beau panel des acteurs du secteur, les questions législatives avec, par exemple, le secret médical. Donner les moyens, donner le temps, ça c'est souvent le nerf de la guerre. Hein. Et notamment pour que les personnes qui accueillent des victimes de violences, les foyers, etc., soient aussi outillées pour accueillir les personnes qui en ont besoin avec leurs animaux. Et deuxièmement, moi je termine tout le temps sur une note positive, hein, même si c'est pas rigolo, il faut quand même se tourner vers l'espoir, se dire qu'en fait cette violence, ben, c'est pas non plus une fatalité, quoi, hein. Donc on l'a vu, c'est une construction sociale, c'est un contexte social, et comme tu l'as bien dit aussi, la paix. Donc la violence, ça s'apprend, et la paix, ça se construit, ça s'apprend aussi. Donc là aussi, il y a des outils de sensibilisation. On parlait ce matin des jeunes générations qui ont peut-être aussi d'autres sensibilités, d'autres empathies peut-être, à l'égard du vivant en général. Donc voilà, il y a de l'espoir, et on continue voilà, le combat pour un monde plus juste envers les humains, les non-humains, le vivant. Voilà, merci à tout le monde.
Vous étiez le vendredi 23 août 2024 à Namur. Et vous avez écouté Bénédicte de Villers, directrice de la Bastide, Anne-Claire Gagnon, vétérinaire, et Dunia Tadli, experte auprès de l'administration wallonne en charge du bien-être animal. Cette conférence était organisée par Etopia, Centre d'études et d'animation en écologie politique.